Flash Bible. Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat.
Avec les émissions Flash Bible, on pense donner un coup de projecteur sur les différents livres de la Bible, mais aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse, c'est la lumière qui se dégage du livre qui va éclairer l'aventure. Et ce livre qu'on découvre aujourd'hui, c'est le livre de 1 Thessaloniciens. Alors Jacques Daniel, c'est un peu un titre étrange, on pourrait imaginer que c'est un obscur terme religieux. Détrompez-moi.
Oui, alors effectivement, le nom Thessalonicien, ce n'est pas un mot kabbalistique, mais simplement le fait que les livres du Nouveau Testament, beaucoup de ces livres, sont des lettres du courrier qui portent finalement le nom de la ville de destination. Et dans le cas présent, eh bien, cette ville, c'est Thessalonique, une antique cité grecque reconstruite au bord de la mer environ 300 ans avant Jésus-Christ. Alors le nom de Thessalonique, en fait, c'était le nom de la demi-sœur du célèbre Alexandre le Grand. Vous savez, cet homme qui partira à la conquête et qui fera un empire. Plus tard, à l'époque romaine, cette ville va profiter, elle est en fait près d'un axe d'échange, donc elle va profiter de tout ce trafic pour se développer sur le plan commercial. Et aujourd'hui, eh bien, Thessalonique est la deuxième plus grande ville de Grèce.
Donc le premier livre des Thessaloniciens, c'est le premier courrier qui a été envoyé à des chrétiens qui vivaient dans cette ville. Comment elle s'est formée, cette communauté chrétienne à Thessalonique ?
Alors, on peut découvrir cette aventure dans le livre des Actes. Et c'est en l'an 50, soit environ 20 ans après la résurrection du Christ, que Paul va apporter l'évangile dans cette ville. Alors, on peut rapidement rappeler que Paul, c'était d'abord un ennemi acharné de la foi chrétienne. Mais plus tard, il va faire une rencontre personnelle avec le Christ et il va devenir un témoin dans tout l'Empire romain. Il va commencer à voyager. Lui qui était contre, il devient finalement touché par le Christ, il devient le porteur de ce message, de cet évangile dans plusieurs régions. Et il va aller, dans le chapitre 17 du livre des Actes, il va aller rencontrer les Juifs qui vivaient dans cette ville de Thessalonique. Pendant 3 semaines, il va leur parler de Jésus le Messie. Plusieurs Juifs, dont de nombreuses femmes, deviennent chrétiens. Mais d'autres font un véritable scandale auprès des autorités. C'est vraiment la manifestation et tout, ça tourne à l'émeute. Et Paul et ses compagnons doivent quitter la ville.
Donc ce n'est pas tellement le début idéal hein, pour commencer une communauté, de se faire chasser à cause de l'opposition. Alors qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire à ces chrétiens qu'il a dû quitter très brutalement hein ?
Oui, alors au début de sa lettre, Paul va mentionner qu'il garde un contact direct avec ses croyants. Pourtant, après l'émeute, après le scandale qui a eu lieu à Thessalonique, Paul a l'interdiction de retourner dans cette ville. Donc il ne peut pas aller dans cette ville. Il n'a bien sûr pas de téléphone portable pour faire les liens. Et c'est un peu comme un homme et une femme qui peuvent s'aimer malgré des milliers de kilomètres de distance. Eh bien, Paul est rempli d'affection pour ces hommes et ces femmes qu'il ne connaissait pas avant. Et on peut écouter ce qu'il dit au chapitre 2, les versets 6 et 8.
Alors voilà ce que Paul écrit. « Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » Ouais, c'est plein d'affection.
C'est quand même impressionnant. Ouais, Et ça, je pense que ça nous montre aussi la nature de l'évangile. L'évangile ne s'est pas répandu par une puissance militaire, par des conquêtes, d'obliger des gens. Il y a eu à un moment donné où l'Église a pris, une certaine Église, à exercer ce type de pouvoir, en disant aux gens, devenez chrétiens. Mais on voit là vraiment la vraie nature de l'évangile, où Paul... ce qui va le conduire à apporter cet évangile, c'est cet amour des gens. Et il le dit, comme une nourrice prend soin de ses enfants, vous voyez, vraiment cette affection. Et puis il dit, mais je serais prêt à donner ma propre vie. Donc on est très loin d'une vision, un système religieux, politique, qui s'impose par la force, pas du tout. L'évangile s'impose par l'amour. Donc c'est vraiment une question, pour Paul, c'est une question d'aimer. Et c'est par ce vecteur qu'il va apporter l'évangile. Et c'est un grand contraste avec l'Église d'aujourd'hui ou de hier qui est malheureusement pas épargnée par des scandales. Il y a des abus sexuels, la cupidité, la tyrannie. Hein, on voit des fois des choses qui apparaissent dans les médias, on se dit mais qu'est-ce que c'est l'Église, qu'est-ce que c'est ces chrétiens, etc. Et ces dérives, ces scandales mettent en lumière les motivations empoisonnées de ceux qui prétendent servir Dieu. Parce que ce sont des gens qui ont des hautes fonctions, et puis on va se rendre compte qu'ils font des choses abominables. Avec Paul, c'est totalement différent. Et son attitude, c'est une leçon d'amour. Et c'est très impressionnant parce que ce sont des étrangers en plus, ces gens-là. C'est pas lui, les Juifs, il vient de Jérusalem, et là, ce sont des étrangers. Et il les considère comme ses frères, il va prier pour eux, il les soutient. Et ce passionné a aussi le désir que les chrétiens comprennent et vivent de cet amour. Et c'est cela, cet évangile, c'est un peu une contagion de l'amour. Paul les aime et il a envie que cet amour devienne vraiment le moteur de cette communauté. Et c'est ce qu'il va leur dire dans le chapitre 4. On peut écouter cette lecture.
Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Donc, des conseils qui invitent à aimer, à vivre en paix et à travailler pour assumer ses besoins.
Oui, et si Paul souligne ces choses, ce n'est pas pour des questions de philosophie ou de morale chrétienne. Ce n'est pas pour dire, voilà, vous devez faire ça parce que ça serait bien de le faire, etc., comme des règles. Mais pour lui, c'est l'expression normale de la puissance de Dieu dans les vies. Quand on lit les évangiles, on peut voir que la puissance de Dieu peut guérir des malades, libérer des opprimés, chasser des démons. Il y a des gens qui sont libérés, qui vivent des miracles, etc. Mais Paul va montrer que le plus grand impact, c'est cette capacité de transformer la vie des hommes. Et il est très réjoui parce que les échos qu'il a de cette communauté qui vit à Thessalonique, cette petite église qui vient de commencer, eh bien, il a des très bons échos parce qu'il porte des fruits d'amour, de respect. Et puis, ça, c'est le signe que ces gens-là ont vraiment connu et sont vraiment en relation avec ce Dieu d'amour.
Alors, peut-être une petite parenthèse là, Jacques Daniel, si on veut passer de la théorie à la pratique. Si Dieu, il est le même aujourd'hui, il agit toujours aujourd'hui, alors on devrait pouvoir trouver des croyants comme ça un peu partout, non ?
Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie d'aller dans une église. Et je dois dire que moi, je les comprends. Parce que déjà, l'église, on imagine déjà que c'est un édifice. Hein. Des fois, c'est même des gros édifices solennels, avec peut-être anciens. Bon, ça dépend bien sûr des pays. Mais l'église, ça n'est pas le prestige d'un édifice ou la musique ou l'ambiance religieuse qui fait l'église. Et c'est ce que montre très bien ce texte. La vraie église, c'est une communauté qui vit des relations de qualité. Le respect, la joie, la vie, le pardon, l'humour aussi, la liberté. Si ces choses sont présentes dans un lieu, et vraiment présentes, c'est que Dieu agit. Et aujourd'hui, alors il y a des églises qui sont tristes, mais puis même moi quand j'y vais, je vais me dire mais je m'ennuie, je trouve ça insupportable, on a l'impression d'entrer dans une espèce d'éternité fade. Et puis en même temps, il y a des endroits, il y a des communautés extraordinaires où on va découvrir cette relation. Et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient touchés quand vraiment il y a ce climat d'amour, ils sont touchés et Dieu va leur parler au travers de cela. Et les auditeurs qui nous écoutent, eh bien, devraient prendre la peine de se dire « oui, je vais voir », parce qu'il y en a des églises comme ça, j'ai envie d'en trouver une. Alors il ne faut pas se limiter, dans le sens que ce soit une église catholique, réformée, protestante, orthodoxe, évangélique, qu'importe. C'est d'aller voir, de trouver à un moment donné, se dire « alors oui, là d'accord ». Là, il y a véritablement ce climat d'amour, de puissance de Dieu, cette bonté. Et cela, eh bien, c'est une bonne nouvelle, ça existe encore aujourd'hui.
Donc, on peut trouver des indications précieuses sur cette vie, ou cette vie d'église très vivante, hein, une vie vivante. On peut trouver, je ne vais pas dire une recette, mais en tout cas, il y a quand même des indications précieuses dans la lettre aux Thessaloniciens, visiblement. Alors, est-ce que Paul aborde encore d'autres sujets dans cette lettre ?
Oui, alors... L'affection de Paul pour les Thessaloniciens le conduit à aborder une des grandes souffrances parce que plusieurs membres de la communauté sont touchés par la mort de leurs proches. Alors, est-ce que c'est des persécutions ? Ça, on ne sait pas. Mais avec la tristesse et le deuil, beaucoup s'interrogent. Et face à la tristesse de la disparition, Paul va souligner que l'espérance chrétienne dépasse les limites de la vie terrestre. Et on peut écouter ce qu'il dit dans le chapitre 14 du verset 4.
Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Donc si on comprend bien, Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il a ouvert un chemin et il a la possibilité de faire sortir les morts de la mort. Ça, c'est surréaliste.
Oui, et puis en fait, c'est quand même le centre, parce qu'avec ces paroles, Paul souligne que l'homme n'est pas simplement un être biologique qui naît, qui va grandir, puis qui disparaît, mais que déjà dans cette vie, nous avons la possibilité d'être en lien avec Dieu. Et c'est là où il y a une dimension spirituelle. Et ce lien qu'on peut avoir avec Dieu sur le plan spirituel, c'est comme un lien, c'est comme une corde qui est tissée avec la vie, mais avec le V majuscule, ce n'est pas notre petite vie biologique. Et puis, on est en lien avec un Dieu qui est au-dessus de la mort. Et la résurrection de Jésus, elle est un signe extraordinaire, parce que justement, elle touche à quelque chose d'essentiel. On pourrait avoir toutes sortes de religions qui parlent de ce qui se passe sur la terre, qui parlent de faire ça, etc. Mais avec ce que Paul montre, c'est que la résurrection de Jésus-Christ, c'est un signe pour nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est un signe que Dieu a la puissance de nous sortir de la mort, de nous faire traverser la mort. Et on peut lire ce qu'il dit à ce propos au chapitre 5.
Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres.
Voilà, c'est-à-dire que en tant que chrétien, le chrétien, et c'est ce que Paul va dire, il fait partie de quelque chose d'autre, de lumineux, qui a cette capacité de vivre déjà, de rayonner dans ce monde, mais aussi de faire partie de cet univers de Dieu, de ce royaume de Dieu, déjà aujourd'hui et après.
Alors Jacques Daniel, on a parlé de la lettre que Paul a adressée aux chrétiens de Thessalonique. On a écouté aussi plusieurs citations. Quelles seraient les dernières paroles à donner avant qu'on referme ce livre ?
Alors Paul, il a dû se poser la même question, hein, l'écrivain, alors qu'il rédigeait cette lettre qu'il allait adresser aux chrétiens de Thessalonique. Il a dû se demander, mais qu'est-ce que je dois dire avant de coller le timbre ? Je ne sais pas si c'était un timbre, mais... Et dans le dernier chapitre, Paul va donner un concentré, une marche à suivre avec de nombreux verbes. Voici une petite compilation là, que je vous invite à lire à nos auditeurs.
Soyez en paix, consolez ceux qui sont abattus, recherchez le bien, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, soyez reconnaissants envers Dieu, n'éteignez pas le Saint-Esprit dans votre vie, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc prière, paix, joie, mais ce sont plus que des concepts philosophiques, c'est vraiment une invitation qu'on peut suivre.
Oui, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose d'abstrait ou de théorique. Ce n'est pas non plus uniquement chanter des « Alléluia » ou prier. La foi, c'est une puissance qui est capable de vraiment changer notre vie, mes relations avec les autres, avec mon conjoint, ma famille, mes voisins, mon quartier. Vivre avec Dieu, c'est un chemin déjà très joyeux. Il le dit, soyez toujours joyeux. Donc, ce n'est pas du tout le pauvre chrétien, comme ça, oh là, on a l'impression que c'est vraiment une vie triste. Non, la vie chrétienne est quelque chose de très dynamique, de très joyeux, d'heureux, etc. Et Paul va conclure tout à la fin par ce souhait que je transmets aussi à tous ceux qui écoutent cette émission. C'est une belle salutation pour terminer. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.
Les feux des projecteurs de Flash Bible s'éteignent pour aujourd'hui. Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques Daniel Rocha. Si vous voulez nous contacter par courrier postal, vous écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25 301 Pontarlier, Cedex, France. Et vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch et nous rejoindre sur Facebook. Au revoir et à bientôt.